Un invité, le tout monde, à quelques jours du coup d'envoi du festival Étonnant Voyageur, retour sur Édouard Glissant en poète, à la faveur de la biographie que lui consacre le philosophe François Nudelman.
Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Un poète est toujours un militant. Ça c'est la chose fondamentale. Il n'a peut-être pas besoin d'être inscrit dans un parti, mais un poète est un militant. Et le poète est toujours solitaire et solidaire. Solidaire parce que le poète a le sens ou l'intuition ou une sorte de nécessité en lui de considérer le monde comme une tentative éternellement recommencée d'équilibre et d'égalité.
François Nudelman, bonjour, bienvenue.
Bonjour Manu Farine.
Les aléas des transports, hein, nous privant de votre camarade de jeu aujourd'hui. C'est donc en tête à tête que nous évoquons cette heure durant la figure d'Édouard Glissant, poète et philosophe, ou plus justement poète-philosophe. Vous signez aux éditions Flammarion une première biographie en forme d'enquête chronologique. Pour l'essentiel, on y reviendra, sous le titre d'Édouard Glissant, l'identité généreuse. Enquête rythmée par quelques trouées, disons plus subjectives, hein, trouées permises par le lien privilégié qui vous a uni à lui les 12 dernières années de sa vie, hein, jusqu'à sa disparition en février 2011, à l'âge de 82 ans. Et on reviendra bien sûr, hein, sur ce regard subjectif qui fait forcément question pour le biographe que vous êtes, de celui qui relia son île, hein, la Martinique, à tous les points de la terre, dites-vous, de celui dont l'écriture s'est nourrie d'engagements politiques liés aux indépendances africaines, à la révolution cubaine, à la mémoire des esclaves, issu des débats sur la négritude, ajoutez-vous, Glissant a impulsé une pensée radicalement novatrice, la créolisation, et l'a étendue à tous les individus et à tous les peuples pour désigner une nouvelle orientation du monde. Autrement dit, chacun se change en échangeant. On vient d'entendre en ouverture d'émission Édouard Glissant en conversation avec Laure Adler, hein, c'était pour l'invitation au voyage en 2004. Glissant a donc 75 ans, il donne sa définition, alors là elle est tardive, mais il donne sa définition du poète. Toujours solitaire, toujours solidaire, Édouard Glissant, est-ce qu'il faut le croire tout à fait quand il dit ça?
C'est une référence aussi à une position qui est celle par exemple de Camus sur l'engagement, qui est distincte de l'engagement sartrien. La littérature, pour lui, ne devait pas avoir un rapport direct à la politique, c'était toujours par détour. Donc, solitaire, c'est certain, solidaire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond, qu'une poésie militante ? Ça veut dire, en tout cas, une poésie qui prend le monde à bras-le-corps, qui essaye de penser son histoire, qui essaye de l'approcher pour le déchiffrer. Et en ce sens, Glissant est beaucoup plus proche de Breton, par exemple.
On va y revenir,
voilà.
Bien sûr.
Mais aussi de ces poètes, on pourrait dire Baudelaire, même si c'est pas forcément sa référence, il va plutôt citer Rimbaud, mais de l'idée que le monde est un temple, comme dit Baudelaire, mais où il faut déchiffrer. Et le poète a cette qualité de comprendre le sens du monde. Donc ce militantisme, effectivement, et bien particulier, n'a pas ici un rapport direct à la politique. De ce point de vue-là, effectivement, on peut dire que Glissant est d'abord, avant tout, un poète. Comme vous l'avez dit, poète-philosophe, et pas poète et philosophe. Ben oui, c'est à partir de la poésie qu'il va forger des outils de connaissance, de déchiffrement, et aussi des outils visionnaires, parce qu'il y a un côté aussi, on peut dire, voyant, pour reprendre des mots connus de l'histoire de la poésie. Il y a un côté voyant chez Glissant qui envisage une nouvelle région du monde. Donc penser le monde, penser son histoire, à travers un langage nouveau, et lui donner une perspective.
Alors on va revenir évidemment à François Nudelman sur tout ça, parce que en fait là en quelques phrases vous avez au fond pointé tous les nœuds importants, hein, qui vont concerner justement la pratique de la poésie chez Glissant. Elle rend presque 60 ans, je le rappelle, hein, Glissant est né en 28, disparu en 2011, il a laissé des romans, essais donc, et bien sûr, évidemment, des recueils de poésie. Je vois d'ailleurs que vous avez une petite fil à côté de vous. Vous avez presque tout emmené avec vous. Poète avant tout, glissant, oui. Vous l'avez dit. Vous le dites d'ailleurs dès la deuxième phrase de votre avant-propos. Est-ce que c'est une hiérarchie ou une prédominance qui transparaît aussi, en même temps en posant la question, j'ai une petite idée de la réponse, mais qui transparaît aussi dans sa réception, parce qu'on a le sentiment au fond que l'œuvre de théoricien aurait recouvert un peu l'œuvre du poète.
Ça c'est certain. J'étais frappé de voir comment à la fin de sa vie, parce que moi je l'ai connu à la fin de sa vie, il était connu partout pour ses idées, et plus celles du discours antillais, mais celles de la créolisation, et comment il s'est investi dans l'écriture de traités. Je pense que c'est un pis-aller. D'ailleurs, il considérait que, après tout, la poésie, elle avait qu'à se défendre toute seule, qu'il n'avait pas à intervenir sur la poésie, mais c'était du dépit. Alors que ses idées, même au prix de grandes simplifications, parce que ça tournait quelquefois au slogan Benetton, mélangez-vous toutes les couleurs, la différence, etc.
Y compris par lui d'ailleurs, hein, parce oui, que vous parlez aussi des dernières années, oui. Vous parlez de glissant en prophète, oui. De glissant en prêcheur.
Oui, oui, oui. Je pense que ça lui faisait plaisir, hein, mais c'est vrai qu'il racontait un peu toujours la même chose. C'était des slogans, bon voilà, même si ce sont des très beaux mantras, changer en échangeant, mais bon, on l'a entendu de nombreuses fois. Et il s'est investi. Mais au fond, je crois qu'il est avant tout poète. Il est poète lorsqu'il écrit, bien sûr, la poésie, mais lorsqu'il écrit des romans, lorsqu'il écrit de la philosophie. Alors vous prenez d'ailleurs ces traités de philosophie. Entre parenthèses, le dernier philosophie de la relation, sous-titre poésie en étendue. Hein, il y a non seulement des greffes de petits textes poétiques, un récit biographique tout d'un coup sur sa mère, sur son premier mois d'existence, et puis tout d'un coup un poème, et tout ça dans un traité qui se veut un traité théorique. Alors ça c'est sa pratique des greffes, mais il y a aussi dans le langage même du concept, dans le langage de la philosophie, il y a aussi un investissement très fort de l'imaginaire, des métaphores. Mais j'étais frappé de voir que dans les tout premiers poèmes, on dit souvent ça, mais il y a tout. Alors bon, c'est une vision rétrospective, bien sûr. On se dit, ah,
vous ironisez un petit peu d'ailleurs là-dessus, hein, oui. Sur cette tentation qu'on a tout le temps, voilà. D'aller voir à la source.
Exactement.
En disant tout y est.
Voilà, exactement.
Mais néanmoins.
Je suis frappé de voir que, je sais pas moi, si on prend un chandil, son premier texte, hein, un chant c'est H-A-M-P, un chandil c'est déjà un archipel, et quand on sait à quel point la notion d'archipélisation a été le moteur, le schème moteur de toute sa pensée, c'est frappant de voir que déjà il a eu cette configuration dans sa poésie, et je crois que c'est quand même à partir de cette poésie, et en fonction aussi, bien sûr, de son existence, qui est quand même très variée, qui est faite de rencontres, de changements, de voyages. Il a quand même vécu dans de très nombreux endroits. Donc tout cela, ces rencontres se sont greffées, ont construit finalement des thèses, des théories à partir d'un, comment on pourrait dire, d'une trame,
ou d'intuition poétique.
Voilà, intuition poétique, voilà. Un canevas, il y a une trame, il y a une trame et puis un tourbillon ou un troubillon, comme il dit. Hein. Ça tourne, mais à partir d'éléments comme un constitutif qui ont été finalement la grille imaginaire de sa pensée dès le départ.
Alors justement, puisque vous évoquez un chant d'île, on en écoute un extrait, parce que le poème est très très long, oui. Lu par Édouard Glissant.
Savoir ce qui dans vos yeux berce une baie de ciel, un oiseau, la mer, une caresse dévolue, le soleil ici revenu. Beauté de l'espace ou otage de l'avenir tentaculaire, toute parole s'y confond. Avec le silence des eaux. Beauté des temps pour un mirage, le temps qui demeure est d'attente, le temps qui vole est un cyclone où c'est la route éparpillée. L'après-midi s'est voilé de lianes, d'emphase et fureur glacée, de volcans amenés par la mer à côté des sables. Le soir à son tour germera dans le pays de la douleur. une main qui fuse le soir à son tour doucement tombera.
Un extrait d'un chant d'Île lu par Édouard Glissant, alors lu tardivement par Édouard Glissant, hein, puisque l'enregistrement date de 2002.
Et il est paru donc aux éditions du Dragon en 53.
En 53.
Et c'était donc une petite édition, repris au Seuil ensuite. Ouais.
D'accord. Alors avant de poursuivre sur ce lien particulier qui lie Glissant à la poésie et au poétique, on va y revenir. Peut-être déjà un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre, non pas sur le poème à proprement parler, mais sur la voix de Glissant. Parce qu'on va parler de ça aussi. Hein, Édouard Glissant, c'est aussi un corps. Vous y revenez beaucoup. François Nudelman, qu'est-ce que vous entendez dans cette façon de dire sa propre poésie? Est-ce que quelles sont les questions au fond que lui posait l'oralité, enfin la lecture du poème? Hein, est-ce que ce sont des choses dont vous avez pu parler avec lui?
Ce qui me frappe, je ne sais pas pour vous, Manu Farine, mais ce qui me frappe, c'est la mesure. Comme on entend l'octosyllabe, alors que ce sont dans un chant d'Île, il y a des passages de poèmes en prose, il y a aussi des quatrains, mais même dans les poèmes en prose, j'ai toujours été frappé, et même dans certains traités, qui est poète théorique, de la manière dont il fait des cadences, des périodes. Alors, moi, ça m'amuse parce que, bon, Glissant, il est surtout connu pour ses thèses sur la démesure, hein. Et voilà, il faut de la démesure, il faut du bas, il faut tout faire éclater, etc.
Mais de la mesure aussi.
Mais de la mesure aussi. Voilà, alors il y a toujours l'histoire de la mesure de la démesure ou la démesure de la mesure. Et c'est frappant quand on l'entend, que ce balancement, et c'est beau, enfin, moi j'adore, je trouve ça magnifique. Et vraiment, il prend soin, on l'entend très très bien, ce souci quand même, ce souci du vers quand même, hein, c'est-à-dire d'une mesure rythmique.
Ce qu'il lit un petit peu à l'ancienne quand même.
Exactement. Hein,
on entend une histoire de la diction. Poétique.
Tout à fait. Il serait plus relié du côté de peut-être de Perse, une certaine oralité assez emphatique, mais peut-être de Char aussi. Et quand même le verbe haut. Hein, on est très loin de Ponge. Même de Reverdy, me semble-t-il, même si Reverdy était une de ses références très importantes. Mais il y a effectivement une diction, le haut langage, hein, le langage aussi de l'épique qu'on va retrouver ensuite dans les Indes, le langage aussi, voire prophétique. C'est sûr que c'est une conception du verbe haut.
Alors vous revenez, hein, François Nudelman, évidemment sur cette importance de la poésie tout au long de votre enquête, hein, sur ces conflits avec l'engagement, hein, vous l'avez évoqué rapidement en début d'émission, ou sa méfiance en tout cas à l'égard de la littérature dite engagée, à l'égard du politique, sur ce qui distinguerait le poétique de la poésie, sur l'impulsion évidemment qu'elle donne à sa pensée, qu'elle donnera à sa pensée jusqu'au bout. Dès tout début, hein, alors que l'adolescent Glissant à Fort-de-France au lycée Schœlcher écrit des vers sur des feuilles de papier banane, donc ça fait partie de la légende aussi, hein, cousu par ses soins jusqu'au dernier recueil, hein, parce qu'au fond il s'arrête assez tôt de publier de la poésie. Enfin, il s'arrête pendant les années 90, parce qu'après, ce sont surtout en fait, des rassemblements de poèmes qui ont déjà été écrits.
Oui, oui. Qu'il corrige aussi. Hein.
Une chose
intéressante à savoir, c'est qu'il a beaucoup repris en corrigeant, en amaigrissant ses poèmes. Je m'étais amusé quelquefois à retrouver des poèmes qui étaient parus en revue. Et il était presque horrifié en disant, oh, mais qu'est-ce que j'étais lyrique, etc. J'étais peut-être trop surréaliste, mais il y a des différences énormes entre les premières publications et celles qu'il finalement autorise à la fin dans ses recueils de poésie complète.
Pour le coup, oui, lyrique, il l'était à ses débuts, ça va sans dire. Alors, paradoxalement, très lyrique, mais peut-être plus d'un lyrisme plus clair, hein. Enfin, une certaine clarté dans ses poèmes, dans ses premiers poèmes en tout cas, par rapport à la façon dont effectivement sa poésie semble dégraisser sur la fin, mais en même temps de plus en plus opaque,
hein,
qui suivrait un peu au fond un petit peu la pensée d'ailleurs de Glissant. Qu'est-ce que c'était pour lui à 15, 16, 17 ans, hein, parce que sa production démarre très très tôt, c'est frappant, vraiment très jeune, hein. Qu'est-ce que c'est pour lui que l'identité du poète? Qu'est-ce que c'était que de devenir poète? Lui qui en était déjà tellement sûr, hein, adolescent, de surcroît, poète non lu, hein, par Adrienne, sa mère, qui ne savait pas lire.
Alors, quand on répond à une question pareille aussi forte, Ben voilà, soit on fait référence au poète lui-même et on dit voilà, que glissant dit-il de sa poésie et de son sa vocation au sens fort, hein, qu'est-ce qui fait que il a eu envie d'avoir cette voix de poète. Alors là, on peut passer par le mythe du génie, on peut dire c'est génial, c'est incroyable, dès 4 ans, voilà, il écrivait tout seul, il est pourquoi alors que son frère lui avait suivi une autre voie, c'est vraiment bon. Et puis, il y a quand même, là, historiquement, des choses qui sont là, objectives, c'est-à-dire, quels sont les modèles? Et les modèles, ce sont des modèles scolaires, parce qu'évidemment, on peut dire, oui, bien sûr, il y a la littérature orale, il y a tout ce qu'on lui racontait, etc. Ça, ça fait partie aussi d'une facilité sur, forcément, il est créole, donc la littérature orale. Hein. Bien sûr, c'est important, et surtout ensuite, dans ses romans, c'est important, parce qu'il l'utilise. Mais, au fond, qu'est-ce qu'il a formé? Ce qu'il a formé, c'est l'école de la République française coloniale, et dans laquelle il a excellé. Donc, il a eu un goût pour cette langue que lui apprenaient les instituteurs, alors même qu'elle supposait le refoulement de sa propre langue, c'est-à-dire du créole, puisqu'il était interdit, on avait des coups de règle quand on parlait créole à l'école, mais il a eu ce paradoxe, si vous voulez, il a vécu ce paradoxe d'être fasciné, comme beaucoup, comme les professeurs aussi, beaucoup de professeurs martiniquais, fascinés par cette langue, par Racine, par le grand siècle, le XVIIe siècle, cette littérature-là.
Par la grammaire, par la syntaxe.
Par la grammaire, par la syntaxe, par le latin. Il adorait le latin, il excellait en latin, il était très très fier, même il me racontait toujours ses prix en latin qu'il avait obtenu pendant la guerre. Donc, il y a cet investissement très fort et ce modèle quand même du poète, du grand poète. Alors, il y a ça. Et puis, il y a un autre modèle, c'est qu'il a la chance, c'est donc dans les années 40, d'avoir... Il n'a pas eu comme professeur, mais quand même, ce professeur est dans le lycée, enseigne au lycée Schœlcher. Donc, c'est Césaire.
Hein, il y a quand qui même revient en 39.
Voilà, c'est ça. Césaire, il y a Damas, et puis il y a le passage de Breton. Et la rencontre Breton-Césaire, bien sûr, comme on le sait, a été extraordinaire. Et il a ce modèle-là. Là, il a le modèle aussi de la revue. Césaire fait une revue, donc il veut faire lui aussi son tropique. Il fait un petit groupe de poètes frangeux. Mais il n'empêche que, vous voyez, c'est le modèle. Je suis un poète. Bon, il y a des photos de lui qui sont assez amusantes où on le voit qu'il y a presque une dégaine de poète. Ses sœurs lui donnent de quoi faire un espèce de costume trop large. Enfin, bref, il y a quand même une imagerie du poète, une pratique évidemment de la langue qui est obsessionnelle et très forte. J'ai glissé. Mais il faut bien comprendre aussi que dans cette ambition, cette vocation hein, de devenir poète, il a des modèles qui sont parfois contradictoires, des modèles mêlés et qui vont l'amener aussi ensuite au moment où il va arriver en France en 46, parce qu'il a une bourse d'études pour aller faire suivre des cours à la Sorbonne, de philosophie d'ailleurs. Mais il arrive en France, son idée c'est de découvrir tous les poètes, c'est d'envoyer ses lettres, d'envoyer ses poèmes, il envoie massivement.
C'est ce qu'il fait, oui.
À Michel Léris, ça va être un bon contact, mais aussi de rencontrer tous les poètes en herbe qui essayent en 46 de sortir du surréalisme. Hein. Donc cette ambition effectivement d'être un poète. Alors un poète comment?
C'est là vous appelez une ambition française.
Voilà, une ambition française, mais évidemment comment on le considère et comment il est publié. Les premières revues qu'il publie, c'est poésie noire. C'est un poète noir. Donc tout de suite, il est un peu pris dans cette identité qui va le poursuivre jusqu'à la fin de ses jours, d'ailleurs, parce que quand on parle des glissants, encore aujourd'hui, on dit, voilà, romancier antillais. Donc, il a toujours réagi à la fois en assumant pleinement son ancrage antillais, mais en souffrant d'être catalogué de manière régionale ou raciale, hein, poète noir ou poète antillais. Donc, en fait, c'est ça
qui va l'éloigner aussi de Césaire, enfin qui va rendre plus compliqué sa non-relation avec Césaire.
Absolument. Il faudrait dire que glissant, il est complètement lié à Ségalène. C'est quand même un de ses grands modèles, Ségalène. Il est lié à Charles, il est lié à Reverdy, il est lié à Breton. Il faut pas oublier quand même que glissant a des affinités avec ces auteurs-là qui
même,
sont pas
même,
les
plus tard, il tiendra Faulkner pour le plus grand écrivain du XXe siècle.
Exactement. Étonnant. Hein. C'est-à-dire que celui qu'on peut considérer comme un descendant ou et même peut-être un soutien de des esclavagistes dans le sud des États-Unis.
Un homme du sud, en tout cas, clairement.
Voilà, un homme du sud. Il montre que voilà, c'est celui qui a tout compris sur la dégradation de la généalogie dans ces pays-là et sur la pensée d'un autre monde et considérait effectivement que c'était un immense écrivain. Donc tout ça nous amène, voilà, comme vous le rappeliez, à de la complexité, à de l'opacité. C'est pas si clair de savoir quelle identité poétique est celle d'Edouard Glissant.
Malgré tout, alors même si effectivement, hein, quand il arrive à Paris en 46, disons que l'heure est à l'émancipation de la domination surréaliste, petit à petit, hein, vraiment petit à petit. Ouais. Néanmoins, il est encore très marqué, lui, par le surréalisme. Quelle en aura été la leçon, finalement, pour lui? La leçon de Breton, ou en tout cas la leçon du surréalisme?
Une chose à laquelle il était très attaché, c'est quand même celle de la rencontre. Vous savez, chez Breton et dans le surréalisme, il y a cette très belle idée, c'est celle du principe du cadavre exquis, du collage, mais de l'explosante fixe, de la rencontre, faire rencontrer des choses qui ne se ressemblent pas. Alors, c'est pas franchement une pratique de Glissant, on pourrait dire. Mais malgré tout, cette idée de la rencontre, elle a insufflé sa pensée de la différence, c'est-à-dire penser par différence et pas penser par ressemblance. C'est aussi le pouvoir donné à l'imaginaire. C'est un imaginaire qui peut être débridé. Mais il y en a sans doute bien plus, hein. Il faudrait y réfléchir.
La question du politique, peut-être. Je me demandais comment ça s'était invité aussi.
Alors théoriquement, c'est sûr. Théoriquement, hein, cette idée que il faut associer Marx et Rimbaud, transformer le monde et changer la vie. Cette dette que Breton affiche par rapport à Rimbaud et Marx, Glissant la reprise. Même si lui ne s'est pas engagé auprès du Parti communiste, hein, comme a pu le faire Césaire à un moment donné, il n'empêche, en tout cas, changer la vie, ça c'est certain. C'est aussi une mission de la poésie.
Il va évidemment, donc vous l'avez dit, adresser des poèmes partout, essayer de se faire une place, rencontrer des poètes en herbe, et puis assez rapidement, finalement ça va assez vite, viendra l'écriture de ce premier roman, qui est La Lézarde, et qui sera couronné par le prix Renaudot. Qu'est-ce que le roman pouvait, à ce moment-là, que ne pouvait pas la poésie, pour dire justement ce qu'il avait à dire? Qu'est-ce qu'il cherche par le roman? Est-ce qu'il cherche à trouver justement un nouveau langage? Est-ce que c'était aussi une façon de s'émanciper, au fond, des influences précédentes, un langage neuf, qui ne pouvait passer que par cette forme-là?
Pareil, deux manières de répondre. Une manière de répondre endogène, interne. Qu'est-ce que Glissant a trouvé dans le langage romanesque? Une manière externe, c'est-à-dire... Pourquoi passer par un genre qui lui donne la reconnaissance, beaucoup plus que la poésie, hein. Parce qu'en plus, il obtient le prix Renaudot. C'est lié aussi à des événements personnels. C'est là où la biographie peut être intéressante ou pas. Voilà, on peut s'en passer. Hein. Mais en tout cas aussi, c'est une rencontre aussi d'une comédienne qui a joué un rôle important. D'où son intérêt pour le théâtre, mais aussi son souci aussi de marquer son écriture par la narration, c'est-à-dire la découverte aussi de la narration. Là encore, il faudrait beaucoup nuancer parce que les Indes en 56 sont déjà aussi une poésie un peu épique, mais qui fait jouer aussi de la narration. On était dans une poésie très imaginaire, surréaliste, et puis là, une poésie qui va aussi raconter. Et c'est là où on en vient évidemment au plus important, c'est-à-dire le souci de Glissant de donner une histoire à son pays. De donner une histoire à la Martinique. C'est-à-dire que cette histoire qui a été refoulée par l'école française, hein, puisqu'on enseignait l'histoire
des Gaulois,
des Gaulois de la chanson de Roland, etc. Pour Glissant, il s'agit de rappeler ce qu'ont été les Antilles, de rappeler l'histoire de la traite, hein, l'histoire de l'esclavage, et donner effectivement une narration à son pays. Et là, il y a bien sûr les Indes, cet immense chef-d'œuvre poétique de Glissant. Et puis, le roman, évidemment, c'est la voie d'accès à cette narration historique. Et la lézarde, est dans le contemporain de ce qu'a vécu Glissant, puisque c'est une rivière, et puis il évoque justement aussi ce qu'est lié à Césaire, l'émancipation progressive du colonialisme, relativement. À partir de là, le roman va être l'occasion de construire, un peu comme les grandes généalogies romanesques à la Rougon-Macquart, de construire sur plusieurs volumes l'histoire de deux lignées. Une lignée d'esclaves marrons, et ça va être le modèle pour Glissant, c'est essentiel.
Les fugitifs,
le marronnage. Et puis les autres, ceux qui sont restés dans la plaine et qui ont subi le pouvoir donc des maîtres et puis ensuite des béquets. Donc le roman lui permet la lézarde puis le IVe siècle lui permet de dresser une sorte de généalogie historique et symbolique de ce qu'a été la souffrance, la servitude des Antillais. C'est pour ça que effectivement il oscille entre poésie et roman, mais va évidemment trouver dans le roman l'occasion de d'épanouir son goût pour le narratif. Même si là encore il faudrait nuancer et dire que la lézarde encore ça va, mais ensuite après il va brouiller complètement la linéarité. Vous l'évoquiez tout à l'heure sous l'influence notamment du nouveau roman, et créer une sorte de roman continuellement polyphonique avec des récits enchâssés.
De plus en plus,
jusqu'à être parfois difficilement lisible. Et ça demande un effort de lire Glissant. Glissant n'est pas simple, il faut l'admettre. Il ne faut pas chercher à le simplifier comme le font certains. Non, il n'est pas. Ça demande, comme la poésie aussi, pas toutes, mais ça demande aussi un effort pour entrer dans un langage.
Alors, cette période-là, François Nudelman, celle dont on parle, donc on est dans les années 50 et puis au tournant des années 60, qui vont être probablement les années, non pas les plus politiques, puisqu'elles ont toujours été d'une certaine façon, mais peut-être les plus militantes, ça va être, sont évidemment les plus activistes en tout cas, sont les années du Front des Antillais et Guyanais pour l'autonomie, les années du Manifeste des 121, qui va être signé, bien sûr, celle de l'engagement pour les indépendances africaines, pour l'indépendance des Antilles aussi, on va y revenir, et puis celle de l'engouement pour Cuba, où il se rend d'ailleurs en 61, vous consacrez tout un chapitre à cet étrange voyage à Cuba, et il en ramènera notamment l'espoir d'une révolution antillaise sur le modèle cubain, sur le modèle de la guérilla. Donc il en revient avec l'idée de ce modèle-là, et puis il en revient aussi avec le goût de cette voix.
Oh, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en él. Tiempo aquel que se fue Cuba. Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Thank you. patria mía. ¿Quién diría que tú, cielo azul, nublar el llanto?
La voix addictive de Guillermo Portavalès, je sais de quoi je parle parce que je suis dedans depuis une semaine, hein, non-stop, le chanteur cubain que Glissant va ramener dans ses valises, hein, qu'il va écouter sans cesse, écrivez-vous, hein, lorsqu'il revient d'ailleurs, donc après Cuba, lorsqu'il revient en Martinique, hein, au tournant des années 70. C'est vous qui avez demandé à François Nodelman à entendre cette voix, qu'est-ce qu'elle dirait de Glissant?
Son amour de Cuba, je crois que ça a été une expérience extrêmement forte pour lui. Cuba lui considérait comme c'était la plus belle île des Caraïbes. Haïti reste bien sûr la plus prestigieuse, mais la plus belle pour lui, c'est Cuba. L'expérience révolutionnaire de Cuba, il l'a vécue au... Je dirais pas complètement au premier degré, mais quand même, il n'a jamais renié Cuba, malgré tout ce qu'on sait du devenir dictatorial de ce régime.
Il s'est même tu, hein, sur la situation d'écrivain ou de poète.
Oui, absolument. Il en était conscient, mais on ne pouvait pas critiquer Cuba ouvertement, officiellement. Il y avait une sorte de fidélité à ce qu'il a vécu dans ces années-là, 60-61. Pour lui, l'ambition, ça a été d'exporter Cuba, d'exporter cette révolution qui, alors bon, si je dis révolution marxiste, lui il dirait, mais c'est pas du tout une révolution marxiste, c'est une révolution cubaine, caribéenne, etc. Et puis, s'en inspirer aussi dans l'idée qu'un jour, la Martinique, la Guadeloupe deviendront indépendantes. Alors ensuite, il renonce à cette ambition, mais au fond, le modèle cubain, il le poursuit. Il y a une chose qui l'a vraiment enthousiasmé terriblement, c'est la campagne d'alphabétisation. Le fait que justement tout le monde, et notamment les Noirs, qui étaient racisés à Cuba, puissent accéder à l'éducation.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Vous parlez justement de Cuba comme étant un modèle qui pourrait préparer éventuellement l'indépendance des Antilles. Et c'est vrai qu'à la lecture de la biographie, au fond, alors je ne sais pas comment vous l'avez perçu dans la pensée, dans l'écriture de Glissant, mais cet espoir-là, enfin en tout cas cette lutte, ou cet espoir, ou cette utopie, semble se dissoudre comme ça, un peu par magie, c'est-à-dire qu'on la perd tout d'un coup dans le texte, dans la biographie, c'est-à-dire on perd cette lutte-là, celle... Alors ça correspond évidemment au moment où les indépendances africaines sont acquises, et puis tout d'un coup, on ne parle plus d'indépendance antillaise, et y compris chez Glissant. Et donc... c'est vrai qu'à la lecture de la biographie, on se demande un petit peu, c'est comme si tout d'un coup il y avait une branche morte, et puis quelque chose auquel on n'avait plus accès, et lui non plus. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors là aussi, plusieurs raisons. D'abord, Glissant a essayé quand même d'aller en Martinique au moment des actions, si vous voulez, militantes. Il était dans la résidence d'Antony, où il y avait beaucoup d'étudiants antillais qui voulaient justement participer à l'indépendance. Qui était complètement engagé dans les mouvements anticolonialistes. Il n'y arrive pas, il est toujours récupéré, on l'appelle le paquet colis parce qu'il est toujours récupéré au moment où il veut partir, voilà, la police le rattrape. Et il y a quand même aussi un événement personnel, c'est là où le biographique malgré tout a son rôle, hein, pour comprendre aussi, c'est que quelqu'un qui l'a beaucoup formé politiquement, qu'il admire beaucoup, qui est Albert Béville, meurt dans un accident d'avion. Un accident d'avion pas toujours élucidé parce que on pense que il y avait beaucoup d'indépendantistes, il y avait un député. Bon, il y a toujours un doute sur le fait que ça aurait pu être un attentat gaulliste. Bon, rien n'est sûr, mais Glissant en tout cas a perdu un mentor, un grand ami. Il est resté très ami avec Paul Béville d'ailleurs, qui est mort tout récemment. Mais la perte de Albert Béville, qui s'appelait Paul Niger, de son nom de poète, a été terrible pour lui. Donc l'impuissance politique, la perte de son mentor, et aussi le fait qu'il se rend compte que l'indépendance n'arrivera pas, il n'y croit plus, l'amène à se réinvestir sur autre chose, sur le culturel, en ce qui concerne les Antilles. Et donc cet Institut Martiniquais d'études qu'il a créé n'est pas simplement une école, mais aussi un lieu qui va impulser des études anthropologiques sur la folie, aux Antilles.
Donc ça veut dire que ce sera plus la culture antillaise, voilà, que l'antillanité.
Exactement. Ensuite, il va aussi modifier ses concepts qui vont évoluer. C'est plus le métissage, mais c'est la créolisation. C'est plus l'indépendance, mais l'interdépendance. Donc, il reste, d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, il reste mobilisé quand il y a des choses indignes qui se passent. Il écrit un manifeste où il participe à des pétitions, mais il n'y croit plus.
Alors, il y a ce renoncement à l'indépendance, il y a aussi cette prise de distance progressive, même si elle vient assez vite, de Glissant à l'égard de toute la question de la négritude, oui, effectivement de, oui, l'antillanité. Oui. Vous en avez parlé de toute façon au début de l'émission. Il y a aussi, alors je sais pas, on peut trouver d'autres choses, d'autres motifs, des choses qu'on a pu lui reprocher. Je pense par exemple aux États-Unis, le fait qu'il ait, alors qu'il enseignait justement la littérature française, qu'on lui a reproché de, oui, continuer justement à y aller de son char, de son Ségalène, de son Rimbaud, Mallarmé, de son Rimbaud, etc. Et à ne pas faire la part belle, justement, ou pas une part particulière à la littérature dite noire. Donc ça a été difficile, j'imagine, aussi pour lui. C'était pas que ce soit à New York ou que ce soit à Bâton Rouge. Est-ce que cette question, aussi la question du choix de la langue, de choisir en français plutôt qu'en créole, toutes ces questions-là et cette question, au fond, de la trahison, ou de la trahison possible, est-ce que c'est une question qui a pu l'occuper? Est-ce que ce sont des choses qui l'ont touché? Est-ce que ce sont des choses qui, au fond, on a pu également repérer dans son écriture, dans sa production à proprement parler?
La trahison, c'est une forme d'élection. Voilà. Il faut bien comprendre que c'est un enjeu philosophique. C'est-à-dire que la trahison, elle est vécue déjà passivement. Parce que c'est l'histoire, au fond, des créoles. Cette trahison du continent natal, de l'Afrique. Trahison malgré eux, parce que déportés, transbordés, ayant perdu le lien avec la mère Afrique. Et Glissant transforme cette trahison subie en trahison assumée, c'est-à-dire que les Antillais ne doivent plus être simplement des satellites plus ou moins perdus de l'Afrique, mais ils ont construit une culture, une culture caraïbe, une culture créole, et c'est là tout l'enjeu pour Glissant d'un affranchissement aussi de l'origine. Ne pas se penser toujours à partir de l'origine. Et ça qu'elle amène à une conception de la créolisation, c'est-à-dire d'admettre que nous sommes multiples, que notre identité est nomade, qu'elle est rhizomatique, pour parler comme Deleuze et Guattari qui étaient ses amis. C'est-à-dire, au fond, que la négritude, c'est un moment de revendication nécessaire, mais ce n'est pas une essence. Et peut-être que pour, d'ailleurs, Césaire, c'était pas non plus une essence. Peut-être que, au fond, Glissant n'était pas si opposé à Césaire que cela. Et la créolisation, pour lui, il l'a revendiqué. Et quand vous évoquez sa solitude par rapport au mouvement africaniste ou au mouvement des droits civiques aux États-Unis, par rapport au mouvement identitariste, elle tient justement au fait que Glissant ne veut pas se définir strictement comme noir parce qu'il admet que toute identité est multiple. C'est pas du tout un reniement, c'est pas du tout une trahison. C'est le fait que
au contraire même. Voilà, c'est une affirmation.
C'est une affirmation que nous sommes continuellement composites. C'est là aussi, il faudrait quand même peut-être dire qu'aujourd'hui où on assiste à un repli identitaire absolument incroyable, aussi bien aux États-Unis, dans l'ère Trump, qu'en France aussi, où le nom de le langage de la race revient énormément, où on doit se définir par rapport à notre couleur, on doit se réunir en groupe selon notre couleur, on doit penser par couleur, selon le groupe auquel on appartient, on n'a pas le droit de s'occuper de ceux qui ne sont pas de notre propre histoire généalogique. Eh bien, tout cela, évidemment, est anti-glissantien au possible, parce que Glissant a vraiment sans arrêt milité pour le contraire, pour le contraire de ces définitions d'identité généalogique, d'identité raciale, ethnique. Et c'est ce qu'il a mis en porte-à-faux, effectivement, quand il était aux États-Unis, par rapport à ceux qui disaient, mais au fond, voilà, ce type-là, il n'assume pas ses racines. Pourquoi il n'assume pas le fait de défendre la négritude et donc la culture noire, les auteurs noirs? Ce que Glissant ne faisait pas, parce qu'évidemment, il continuait à enseigner, comme vous l'avez rappelé, des auteurs blancs, français, s'il faut parler comme ça. Hein. Il n'était ni pour ni pour l'universalisme, qui consiste à nier les différences, hein, ni pour le différentialisme, dont on constate aujourd'hui la résurgence, et à gauche et à droite. Hein. C'est-à-dire l'idée qu'on est défini par ça, comme des descendants, hein, ou par sa couleur.
On aurait, alors je comprends ce que vous dites, effectivement, ni universalisme, hein, oui. Bien sûr, mais pour autant, on a quand même le sentiment que la pensée qu'il développait aurait dû trouver un accueil plus favorable en France, notamment d'un point de vue académique, oui. Plutôt qu'aux États-Unis précisément, parce qu'a priori, on a plutôt tendance à penser que la pensée de Glissant oui. devait un peu gratter, malgré tout, aux États-Unis. Et peut-être qu'elle pourrait effectivement être davantage franco-compatible aux États-Unis. Et c'est pourtant l'inverse qui s'est passé.
Trop blanc pour les départements de African American Studies. Trop noir pour les départements de littérature française.
Alors, ce qui ne l'empêchait évidemment pas de fredonner ceci en rentrant d'un petit voyage sur les pas de Faulkner.
And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree.
Strange Fruit, la chanson que Billie Holiday interprète pour la première fois en 1939, hein, je crois, qui est une chanson adaptée d'un poème d'Abel Mirepol. Billie Holiday qui s'invite, hein, par petite touche insistante, dans votre livre, François Nadelman. L'auteur de cette chanson se trouve, je crois, dans l'anthologie...
Anthologie poétique
du tout monde.
C'est le dernier livre que...
Paru chez Galade. Absolument. Je l'évoquais en tout début d'émission, François Nadelman, mais votre enquête est trouée par endroits de textes bref, plus bref en général, comme des sorties de route, hein, qui sont choisies d'ailleurs dans une autre typographie, le plus souvent au jeu, le plus souvent vous mettant en scène avec Glissant, c'est-à-dire au cours des dernières années, et qui font irruption sans souci du déroulement chronologique de l'enquête, hein, qui viennent plutôt, d'une certaine façon, augmenter, éclairer de façon différente, parfois plus prosaïque, plus empathique aussi, plus objective, plus personnelle, des pensées évoquées dans le corps du texte. Alors, il est question, par exemple, d'une finale de match de rugby France-Angleterre, hein, regardée ensemble à New York, d'une soirée d'Halloween un peu tendue, toujours à New York, chez vous, avec notamment un Vitaronel, et puis d'un voyage à Carthage, de l'élection d'Obama, bien sûr, de la création de l'Institut Tout le monde à Paris, dans lequel vous êtes extrêmement investi, ou encore de Billie Holiday, hein, que vous lui faites entendre dans sa chambre d'hôpital à la toute fin. Je me demandais, François Nadelman, qu'est-ce que cette enquête, au fond, vous aura véritablement appris que vous ne sachiez déjà, vous qui commencez par écrire « Je n'arrive pas à raccorder le poète dépenaillé du Lamantin », l'indépendantiste assigné à résidence par De Gaulle, le romancier flambeur du prix Renaudot et le conférencier plutôt sage, hein, j'ajoute, ça c'est plutôt celui des dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, vous sauriez par où passe ce raccord ?
Pas du tout. Bon, c'est un texte un peu particulier parce que, au fond, j'ai voulu témoigner de d'une admiration pour à la fois une œuvre et un homme. J'ai rencontré l'œuvre, j'ai rencontré l'homme, mais c'est tout un. Et donc, c'est un portrait biographique, plus qu'une biographie académique. Ça, bon, il y a des tas de personnes qui peuvent et qui le feront. Donc, des biographies avec plein de notes en bas de page et des documents pour les étudiants. Mais moi, j'ai voulu donner aussi à voir et entendre un glissant composite. Hein. Composite, c'est-à-dire que c'est effectivement quelqu'un qui lisait quotidiennement le journal L'Équipe. Alors on peut dire c'est anecdotique, mais bon, son rapport au sport, je crois, est assez intéressant sur plusieurs aspects. Et c'est aussi quelqu'un qui avait, comme tout le monde, mais peut-être plus que d'autres, des moments aussi de dépression. Donc je pense que quand on veut approcher un homme, il ne s'agit pas de faire une hagiographie et de dire c'est un saint. C'est aussi de montrer la beauté aussi de ses faiblesses. J'ai voulu aussi voilà montrer le glissant tel qu'il apparaît dans son rapport intime à l'écriture aussi. Donc le suivre et donner accès à alors on a dit je sais pas un monstre, un ogre parce qu'il était très grand.
Un ours. Dit Christiane Taubira.
Oui, c'est ça.
Ou un tigre.
Voilà, donc chacun y voit son animal fétiche ou effrayant. Mais je crois en tout cas que c'est quelqu'un qui effectivement a avaler le monde. C'est ça aussi, moi, qui me frappe. Si je dirais, c'est, il y a un geste de vouloir connaître le monde, être traversé par ce monde, une curiosité extraordinaire, qui n'empêche pas la manière d'assumer sa propre histoire et de rester fidèle à la Martinique, à ses paysages, à son imaginaire, à ses sons, à ses odeurs, voilà. Mais c'est, comme vous l'avez dit, je crois, au début de cette émission, vous avez dit, c'est la Martinique et le monde, et sans arrêt des allers-retours. C'est le monde à partir de la Martinique. C'est pas que la Martinique devienne un centre, mais elle devient un élément d'une archipélisation du monde. C'est-à-dire que le monde n'est plus, c'est pas 5 continents, c'est tout d'un coup des lieux qui deviennent des archipels avec lequel la Martinique compose une île parmi d'autres. Transformé, comme le dit son premier poème, le monde, le tout monde, en un champ d'îles. Alors, donc je peux pas dire que j'ai une meilleure idée ou j'ai pas fait de synthèse. Glissant existe aussi à travers tous les regards qu'on peut porter sur lui. Mais en tout cas, je crois que j'ai élargi peut-être un petit peu l'archipel et que j'espère avoir permis qu'on ne dise pas simplement « Ah, voilà un poète antillais hein, » ou « Voilà un romancier des Caraïbes ». J'espère en tout cas qu'on aura compris que c'est un homme-monde, comme lui-même a voulu se définir.
Alors ce qu'on se dit aussi, François Nudelman, en le lisant, c'est « Ah, c'est un corps ».
Oui.
Parce que cette chose-là traverse vraiment toute la biographie, à plusieurs titres. Hein. Alors évidemment, son légendaire coup de fourchette, hein, c'est quelqu'un qui mange beaucoup, hein, qui dévore, mais aussi les variations de son corps. Vous parlez beaucoup aussi, alors effectivement, il était de sa jeunesse, hein, avec ses deux petites cannes, hein, ses baguettes.
Oui. Baguette la vérité, on l'appelait.
Voilà, lorsqu'il était tout jeune, la façon dont ce corps s'est épaissi, presque à mesure de son écriture. Vous parlez aussi beaucoup des vêtements qu'il choisit. Cette attention portée au corps, en particulier, et que vraiment vous tenez tout du long de la biographie, en quoi est-ce qu'elle pourrait nous éclairer, justement, peut-être même particulièrement sur Glissant poète?
Oui. Parce que, qu'on soit philosophe ou poète, je crois qu'on ne vit pas dans l'idéalité. Moi, souvent, là, je reste, assez nietzschéen. Je pense que la pensée, elle vient du corps. Mais le corps, c'est pas simplement de l'organique, c'est pas simplement du physiologique. Le corps, c'est aussi la psyché, c'est les affects, c'est le sensible. Et c'est tout ça. Et qui nourrit les idées, qui nourrit l'écriture. Donc, il faut s'intéresser au corps, c'est-à-dire aux désirs, aux appétits, à la manière de se présenter, à la manière de marcher. Il y a tout un homme ou toute une femme dans une manière de poser un pied par terre, de prendre un objet, de regarder, de s'évader. Mes souvenirs de Glissant à Carthage sur un banc, tout d'un coup rêvassant ou regardant, c'est aussi important pour comprendre son œuvre que d'avoir, si vous voulez, un commentaire en bonne et due forme. Partir de là, ça justifie effectivement une enquête biographique. Alors, sur la poésie, ou le roman, c'est important. Vous avez évoqué le fait que vous avez été sensible au fait que il était très maigre, il grossit, il grandit.
Et redevient squelette. Voilà,
c'est ça.
Il rétrécit.
J'étais sidéré de trouver dans le roman Tout le monde une espèce de méditation sur justement son corps à venir et où il fantasme justement son corps qui redevient d'une maigreur absolue et qui disparaît par la maigreur. À ça, j'étais sidéré parce que bon. C'est de fait ce qui s'est produit, un amaigrissement terrible. Mais il a fantasmé justement ce rapport au corps. Et il a, ouais, j'aurais tendance à le comparer. Alors théoriquement, il est très très proche de Montaigne. Hein, c'est vraiment un auteur d'une grande affinité pour lui. Mais là, le rapport au corps, il a quelque chose de rabelaisien, quoi. C'est-à-dire avaler les savoirs et puis tout énumérer le monde, le prendre avec soi. Et ce côté géant, justement, comme les personnages de Rabelais, de géant du savoir. Hein. Il y avait ça chez lui, hein. Cette ambition de tout prendre avec soi et d'être traversé, insufflé, nourri. Voilà, c'était devenir l'homme monde, hein. Être le passeur, celui qui déchiffre et celui qui fait passer et celui qui d'une certaine manière délivre ce message, comme à la fin de texte de Rabelais, hein, bon, cette dive bouteille, mais quel est le message de la dive bouteille? Bah c'est bois, bah, profite du monde, voilà, vis le monde jusqu'au bout. Son secret, c'est ça, c'est ne pas chercher des arrière-mondes et des idéalités, des dieux, voilà, enfin surtout pas un seul dieu en tout cas. Nietzsche n'en avait rien d'un monothéiste, et donc accepter cette multiplicité de vie et la prendre à bras le corps.
On comprend bien que vous lui devez beaucoup, en tout cas il est probable qu'il y ait certaines lignes qui aient bougé chez vous.
Oui.
Vous posez la question de votre légitimité et de la légitimité de l'entrée de ce corpus dans vos propres champs de recherche. Oui. Donc vous revenez évidemment là-dessus. Et vous lui devez également un nom, hein, puisqu'il vous appelle Tancrède, hein, comme le Tancrède du Guépard. Vous mettez un petit peu de temps à comprendre qu'il s'agit bien de lui. Comme il renomme souvent son entourage,
hein,
c'est le cas par exemple de ses élèves, à l'Institut Martiniquais d'études. C'est le cas aussi de certaines de ses concours. Donc il renomme beaucoup.
Bien sûr. Et qu'il est renommé lui-même, qu'il a plusieurs noms.
Alors lui, oui, beaucoup de surnoms. Qu'est-ce que ce geste-là, qui consiste finalement à la fois à moquer les noms, hein, d'une certaine façon, et en même temps, malgré tout, à donner naissance, à désigner par le lien qui unit les autres à lui?
C'est une question passionnante, ça, tout à fait. D'abord, il faut rappeler, comme dans le IVe siècle, son deuxième roman, que la question des noms est très importante pour les Antillais, parce que, justement, il y a eu l'état civil en 1848, et que des noms ont été donnés, des noms quelquefois d'anciens maîtres, ou des noms qui sont parfois ironiques, et qu'il s'en sait plus à montrer ces fonctionnaires de l'état civil qui savent plus comment nommer. Lui-même, bah, son nom de glissant, c'est, bon, est-ce que c'est sanglant? C'est une inversion d'un nom de maître. Est-ce que c'est Sangri devenu Sangli? Voilà. Donc les noms sont des noms imposés par les colons.
Oui. Surtout le sien par ailleurs, parce que Glissant il le deviendra tardivement,
hein,
puisque son père le reconnaît très tard.
Exactement. Lui-même donc est né sous le nom de Mathieu Godard. D'ailleurs de la famille par exemple de sa première femme, parce qu'il a eu trois épouses, on compte les enfants ou les cousins, c'est-à-dire les nièces continuent de l'appeler Mathieu, comme son personnage principal. Hein. Donc Mathieu, Édouard, ses copains l'appelaient toujours Godby en Martinique. Donc il joue et finalement, ce qui pouvait apparaître comme un défaut de généalogie, parce que le nom, surtout dans une tradition, je sais pas moi, européenne ou méditerranéenne, le nom c'est ce qui nous donne un ancrage. Hein. Tu es ton nom, tu es le fils de ou la fille de ta famille. Voilà. Là, tout d'un coup, on est dans des noms qui témoignent de ce qu'il n'y avait pas une famille qui remonte à, je sais pas, 40 générations et qui donne une légitimité. Donc cette illégitimité, eh bien, il va en jouer et s'en amuser. Et donc, on se plaît à se donner des noms, des sobriquets. C'est un jeu pour Glissant. Et donc, il a continué ce jeu, acceptant qu'on le nomme différemment. Et vous avez raison, il y a aussi quand même le fait de baptiser, d'inventer une nouvelle légitimité, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que c'est qu'un nom ? Vous savez, il y a une phrase de Joyce comme ça qui dit « Qu'est-ce que c'est un nom ? C'est ce que tout enfant se demande lorsqu'il reçoit ce nom qu'on lui dit être le sien. Qu'est-ce que c'est ? Tout d'un coup, ça nous tombe dessus. » Alors lui, ça lui est tombé dessus parce qu'il s'appelait Mathieu Godard et à 10 ans, tout d'un coup, le père le reconnaît et paf, il devient glissant, comme le nom de son père. Son père s'appelait Édouard Glissant lui-même. Ouais. Bon, alors on l'appelait pas Édouard Glissant Junior, mais bon.
Ce qui donne une scène assez folle au moment des funérailles de son père, où il est face à sa propre tombe.
Il est face à sa propre tombe avec son nom Édouard Glissant. Et donc mais il y a aussi le fait de, vous voyez, le nom, c'est on dit je m'appelle, mais c'est les autres qui m'appellent, hein. Les autres m'appellent par mon nom, donc c'est un nom, c'est une interpellation, une assignation aussi. Je suis un nom pour les autres, parce que sinon j'ai pas besoin de me nommer, hein, ou je peux dire vaguement je si je m'y reconnais, mais le nom, c'est pour les autres. Donc il y a une manière ici de relation par le nom. Je te donne un nom, tu t'appelles comme ça pour moi, et c'est assez beau parce que c'est finalement le langage de l'adoption, hein. C'est-à-dire que on se donne un nom et on s'adopte, on crée une relation et on a un élément de, non pas de familiarité, mais de d'affiliation. C'est plus la filiation que la filiation, hein. Où il y a une familiarité sans famille, voilà, on pourrait dire ça comme ça, hein, dans le fait qu'on se nomme et on a un petit nom, comme ça, l'un pour l'autre.
François Nudelman, merci pour cette heure consacrée au poète philosophe, poète-philosophe Édouard Glissant. C'est la fin de cette émission, ou presque, hein, puisqu'elle a pour habitude de laisser les invités prolonger la discussion entre eux et sans moi. Alors le cas est un petit peu particulier aujourd'hui, puisque je vous laisse terminer l'émotion, j'allais dire, ou pas. Pourquoi pas ? Puisque je vous laisse terminer l'émission seule. Alors bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Puisque cette émission concerne la poésie, et je voudrais juste dire un mot sur peut-être l'œuvre d'Édouard Glissant. Alors si malgré tout je devais trouver un fil conducteur à toute son œuvre, je dirais que son œuvre est fondée sur un cri. Le cri, c'est-à-dire l'inarticulé, ce qu'on ne peut pas dire vraiment, mais simplement proférer. Toute son œuvre, c'est celle d'un cri. Et dans un texte qui s'appelle « L'intention poétique », qui est un recueil de réflexions sur la poésie, Glissant dit ceci, qui me paraît rendre compte de son usage du langage. Il me semble que tout Glissant est là. Donc je lis cet extrait. « Crie au monde poussé du plus haut morne, et que le monde n'entendit. Submergé là, en la vague douceâtre, où la mer englue l'homme. » Et c'est à cette absence de silence, à ce rentrement, que je noue dans la gorge mon langage, qui ainsi débute par un manque. Et mon langage, raide et obscur, ou vivant ou crispé, est ce manque. D'abord, ensuite volonté de muer le cri en parole devant la mer. Qu'importe la langue, quand il faut du cri et de la parole, mesurez là l'implant dans toute langue autorisée. Tu bâtiras ton langage.
Poésie ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Tahar Boukhlifa pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique de Nicolas Martin. The